bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de
Hélène,
Magali
et Kadiatou, moi-même. Nous sommes élèves de 5e 2.
Aujourd'hui, nous vous proposons une émission de littérature sur les contes des Mille et Une Nuits.
Nous allons vous lire un extrait de conte, du conte Histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Maintenant, je passe la parole à Kadiatou.
Histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs exterminés par une esclave. La sultane Scheherazade, éveillée par la vigilance de Dinarzade, sa sœur, raconta au sultan des Indes, son époux, l'histoire à laquelle il s'attendait. « Puissant sultan, dit-elle, dans une ville de Perse, aux confins des états de votre majesté, il y avait deux frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens et qu'il les avait partagés également, il semble que leur fortune devait être égale. Le hasard, néanmoins, en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devint héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de biens en fond de terre qui le mit tout à coup à son aise et le rendirent un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi pauvre que lui, était logé fort pauvrement et il n'avait d'autre industrie pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir lui et ses enfants que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville chargé sur 3 ânes qui faisaient toute sa possession. Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé à peu près assez de bois pour faire la charge de ses ânes lorsqu'il aperçut une grosse poussière qui s'élevait en l'air et qui avançait du côté où il était. Il regarde attentivement et il distingue une troupe nombreuse de gens à cheval qui venaient d'un bon train. Quoiqu'on ne parlât pas de voleurs dans le pays, Ali Baba néanmoins eut la pensée que ces cavaliers pouvaient en être. Sans considérer ce que deviendraient ses ânes, il songea à sauver sa personne. Il monta sur un gros arbre dont les branches à peu de hauteur se séparaient en rond si près les unes des autres qu'elles n'étaient séparées que par un très petit espace. Il se posta au milieu avec d'autant plus d'assurance qu'il pouvait voir sans être vu et l'arbre s'élevait au pied d'un rocher isolé de tous les côtés, beaucoup plus haut que l'arbre et escarpé de manière qu'on ne pouvait monter au haut par aucun endroit. Les cavaliers, grands, puissants, tous bien montés et bien armés, arrivèrent près du rocher où ils mirent pied à terre. Et Ali Baba, qui en compta 40 à leur mine et à leur équipement, ne douta pas qu'ils ne fussent des voleurs. Il ne se trompait pas. En effet, c'était des voleurs qui, sans faire aucun tort aux environs, allaient exercer leur brigandage bien loin et avaient là leur rendez-vous, et ce qu'il les vit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, lui passa au cou un sac plein d'orge qu'il avait apporté sur la croupe, et ils se chargèrent chacun de leurs valises. Et la plupart des valises parurent si pesantes à Ali Baba qu'il jugea qu'elles étaient pleines d'or et d'argent monnayé. Je passe maintenant la parole à Hélène.
Le plusieurs parents, chargés de sa valise comme les autres, qu'Ali Baba prit pour le capitaine, les voleurs, s'approcha du rocher, fort près du gros arbre où il s'était réfugié, et après qu'il se fût fait chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles distinctement. « Sésame, ouvre-toi !» Ali Baba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcés, une porte s'ouvrit. Et après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui et qu'ils furent tous entrés, il entra aussi et la porte se ferma. Les voleurs demeurent longtemps dans le rocher et Ali Baba, qui craignit que quelqu'un d'eux ou que tous ensemble ne sortissent si qu'il était son poste pour se sauver, fut contraint de rester sur l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir de 2 chevaux. En montant un et mener l'autre par le bride et de gagner la ville en chassant ses 3 ânes devant lui. Mais l'incertitude de l'événement fit qu'il prit le parti le plus sûr. La porte se rouvrit enfin. Les 40 voleurs sortirent et au lieu que le capitaine était entré le dernier, il sortit le premier. Et après les avoir vus défiler devant lui, Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles. « Sésame, referme-toi !» Chacun retourna à son cheval, le rebrida, rattacha sa valise et remonta dessus. Quand ce capitaine enfin vit qu'ils étaient tous prêts à partir, il se mit à la tête et il reprit avec eux le chemin par où il était venu. Ali Baba ne descendit pas de l'arbre d'abord. Il dit en lui-même, « Ils peuvent avoir oublié quelque chose à les obliger de revenir et je me trouverai attrapé si cela arrivait. » Il les conduisit de l'œil jusqu'à ce qu'il les eût perdus de vue et il ne descendit que longtemps après plus grande sûreté. Comme il les avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité d'éprouver si en prononçant, elle ferait le même effet. Il passa au travers des arbrisseaux et il aperçut la porte qu'il cachait. Il se présenta devant et dit « Sésame, ouvre-toi !» Et dans l'instant, la porte s'ouvrit tout grande. Ali Baba s'était attendu à voir un lieu de ténèbres et d'obscurité, mais il fut surpris d'en avoir un bien éclairé. Vaste et spacieux, creusé en voûte fort élevée à main, qui recevait la lumière du haut du rocher par une ouverture pratiquée de même. Il vit de grandes provisions de bouche, des baillots de riches marchandises en pile, des étoffes de soie et de brocart, des tapis de grand prix et surtout de l'or et de l'argent monnayé. Par tas, et dans des sacs ou grandes bourses de cuir les unes sur les autres. Et à voir toutes ces choses, il lui parut qu'il y avait non pas de longues années, mais des siècles que cette grotte servait de retraite à des voleurs qui avaient succédé les uns aux autres. Ali Baba ne balança pas sur le parti qu'il devait prendre, il entra dans la grotte et dès qu'il y fut entré, la porte se ferma. Mais cela ne l'inquiétait pas, il savait le secret de la faire ouvrir. Il ne s'attacha pas à l'argent, mais à l'or monnayé, et particulièrement à celui qui était dans des sacs. Il enleva à plusieurs fois autant qu'il pouvait emporter et qu'il put surfaire. La charge de ces trois ânes. Il rassembla ses ânes qui étaient dispersés, et quand il les eut fait approcher du rocher, il les chargea des sacs, et pour les cacher, il accommoda du bois par-dessus des manières qu'on ne pouvait les apercevoir. Quand il eut achevé, il se présenta devant la porte et il n'eut pas prononcé ces paroles. « Sésame, referme-toi » qu'elle se referma, car elle s'était refermée d'elle-même chaque fois qu'ils étaient entrés et devait demeurer ouverte chaque fois qu'il en était sorti. Je passe la parole à Magali.
Ali Baba rentre chez lui et montre-leur à sa femme. Désirant compter cette fortune, elle fait emprunter une mesure à sa belle-sœur. Celle-ci, curieuse de savoir ce que la femme d'Ali Baba veut ainsi coûter, induit la mesure de suif. Lorsque la femme d'Ali Baba compte l'or, une pièce reste collée sous la mesure. La femme de Cassim, l'ayant trouvée, en informe son mari. Loin d'être sensible au bonheur qui pouvait être arrivé à son frère pour se tirer de la misère, Cassim en conçut une jalousie mortelle. Elle en passa presque la nuit sans dormir. Le lendemain, il alla chez lui, que le soleil n'était pas levé. Il ne le traita pas de frère. Il avait oublié ce nom depuis qu'il avait épousé la riche veuve. Ali Baba, dit-il en l'abordant, vous êtes bien réservé dans vos affaires. Vous êtes le pauvre, le misérable, le jeu. Et vous mesurez l'or. Mon frère, reprit Ali Baba, je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, expliquez-vous. Ne faites pas l'ignorant, reprit Cassim. Et en lui montrant la pièce d'or que sa femme lui avait mise entre les mains, combien avez-vous de pièces ? Ajouta-t-il, semblable à celle-ci que ma femme a trouvée, attachée au-dessus de la mesure que la vôtre. Va lui emprunter hier. À ce discours, Ali Baba connut que Cassim et la femme de Cassim partent en entêtement de sa propre femme. Savait déjà ce qu'il avait si un grand intérêt de tenir caché. Mais la faute était faite. Elle ne pouvait se repérer sans donner à son frère la moindre marque d'étonnement ni de chagrin. Il lui avoua la chose et il lui raconta par quel hasard qu'il avait découvert la retraite des voleurs en quel endroit. Il lui offrit, s'il voulait garder le secret, de lui faire part du trésor. Je le prétends bien ainsi, reprit Cassim, d'un air fier, mais ajouta-t-il, je veux savoir aussi où est précisément ce trésor, les enseignes, les marques et comment je pourrais y entrer moi-même s'il m'en prenait envie. Autrement, je vais vous dénoncer à la justice. Si vous le refusez, non seulement vous n'aurez plus rien à en espérer, vous perdrez même ce que vous avez enlevé. Au lieu que j'en aurai ma part,
pour vous avoir dénoncé Ali Baba plutôt par son bon naturel qu'intimidé par les menaces insolentes d'un frère barbare. L'instruisit pleinement de ce qu'il souhaitait et même des paroles dont il fallait qu'il servît tant pour entrer dans la grotte que pour en sortir. Tamsim se rend à la grotte, l'ouvre en usant ses paroles magiques, Sésame, ouvre-toi. Mais se trouve incapable de s'en souvenir au moment de sortir. Pris aux pièces, il est découvert par les voleurs qui le tuent. Son corps est découpé en quartiers placés à l'entrée de la grotte afin d'épouvanter celui qui en connaît le secret. Ali Baba, alerté par sa belle-sœur qui ne voit pas revenir son époux, part à la recherche de son frère. Il trouve les morceaux de son corps et comprend ce qui est arrivé. Les rapporte à sa belle-sœur en grand secret.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre histoire vous a plu.
Retrouvez-nous très prochainement pour la suite des histoires de Shéhérazade.
À très bientôt sur Radio TV Capucin. Restez branchés.
Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de Awa et moi, Rania. Nous sommes élèves de 5e 2. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission de littérature sur les contes des mille et une nuits. Nous allons vous lire un extrait du conte Histoire du calife Haroun al-Rachid. Awa, je te laisse la parole.
Les aventures des califes Haroun al-Rachid et son vizir Giafar prirent chacun un habit de marchand étranger et sous ce déguisement, ils sortirent seuls par une porte secrète du jardin du palais qui donnait sur la campagne. Ils firent une partie de circuit de la ville par les dehors jusqu'au bord de l'Euphrate, à une distance assez éloignée de la porte de la ville qu'ils étaient de côté là. Sans avoir rien observé qui fût contre le bon ordre, ils traversèrent ce fleuve sur le premier bateau qui se présenta et après avoir achevé le tour de l'autre partie de la ville. Opposé à celle qui venait de quitter le respire le chemin du pont qui en faisait la communication, ils passèrent ce pont au bout duquel ils rencontrèrent un aveugle assez âgé qui demandait l'aumône. Le calife se détourna et lui mit une pièce de monnaie d'or dans la main. L'aveugle à l'instant lui prit la main et l'arrêta. « Charitable personne, dit-il, qui que vous soyez, que Dieu a inspiré de me faire l'aumône, ne me refusez pas la grâce que je vous demandais de me donner. Un soufflet, je l'ai mérité et même un plus grand châtiment. » En achevant ces paroles, il quitta la main du calife pour lui laisser la liberté de lui donner le soufflet, mais se crainte qu'il ne passât outre sans le faire. Il le prit par son habit. Le calife s'éprit de la demande et de l'action de l'aveugle. « Bon homme, dit-il, je ne puis t'accorder ce que tu me demandes. Je me garderai bien d'effacer le mérite de mon aumône par le mauvais traitement que tu prétends que je te fasse. » En achevant ces paroles, il fit un effort pour faire quitter prise à l'aveugle, l'aveugle qui s'était douté de la répugnance de son bienfaiteur par l'expérience qu'il en avait depuis longtemps. Fit un plus grand effort pour le retenir. « Seigneur, reprit-il, pardonnez-moi ma hardiesse et mon importunité. Donnez-moi, je vous prie, un soufflet ou reprenez votre aumône. Je ne puis la recevoir qu'en cette condition, sans contrevenir à un serment solennel que j'en ai fait devant Dieu. Et si vous saviez la raison, vous tomberez d'accord avec moi que la peine est très légère. » Je vous laisse la parole à Rania.
« Je me nomme Baba Abdallah, » répondit l'aveugle. « Baba Abdallah, » reprit le calife, « ta manière de demander l'aumône me parut hier si étrange que si je n'eusse été retenu par de certaines considérations, je me fusse bien gardé d'avoir la complaisance que j'eus pour toi. Je t'aurais empêché dès lors de donner davantage au public le scandale que tu lui donnes. Je t'ai donc fait venir ici pour savoir de toi quel est le motif qui t'a poussé à faire un serment aussi indiscret que le tien. » Et, sur ce que tu vas me dire, je jugerai si tu as bien fait et si je dois te permettre de continuer une pratique qui me paraît d'un très mauvais exemple. Dis-moi donc, sans rien me déguiser, d'où t'est venue cette pensée extravagante ? Ne me cache rien, car je veux le savoir absolument. » Baba Abdallah, intimidé par cette réprimande, se prosterna une seconde fois, le front contre terre devant le trône du calife, et après s'être relevé. « Commandeur des croyants, » dit-il aussitôt. « Je demande très humblement pardon à votre majesté de la hardiesse avec laquelle j'ai osé exiger d'elle et la forcer de faire une chose qui, à la vérité, paraît hors du bon sens. Je reconnais mon crime, mais comme je ne connaissais pas alors votre majesté, j'implore sa clémence et j'espère qu'elle aura égard à mon ignorance. Quant à ce qui lui plaît de traiter ce que je fais d'extravagance, j'avoue que c'en est une et mon action doit paraître telle aux yeux des hommes. » Mais à l'égard de Dieu, c'est une pénitence très modique, d'un péché énorme dont je suis coupable, et que je n'expierai pas. Quand tous les mortels m'accableraient de soufflets, les uns après les autres, c'est de quoi votre majesté sera le juge elle-même. Quand par le récit de mon histoire que je vais lui raconter, en obéissant à ses ordres, je lui aurai fait connaître quelle est cette faute énorme.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre histoire vous a plu. Retrouvez-nous très prochainement pour la suite des histoires de Sherazade. À très bientôt sur Radio TV Capizan. Restez branchés.